Et c'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Aujourd'hui, un sujet grave et heureusement assez rare, l'accident vasculaire cérébral de l'enfant, mais qui a donné lieu à un beau livre.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM. Et vous le savez, dans cette émission, on donne la parole à toutes sortes de personnes qui vivent sur notre territoire, le Finistère. Pour le meilleur, on essaie, pas toujours. Parfois le sujet est plus sombre, mais on tente de le teinter d'espoir et d'humanité. Et c'est très humain, le sujet du jour, c'est une histoire de famille, de santé, de peur, de courage. Et il y a de la lumière au bout du tunnel. Avec nous, un père, Yannick Guéguin, qui vient d'écrire un livre sur l'expérience partagée avec sa fille, qui est là aussi, c'est Camille. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, le livre a pour titre « Apnée », et c'est vraiment, je me permets de dire que, comme je l'ai lu, c'est vraiment bien choisi, parce qu'en effet, on ne lâche pas ce livre. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Yannick, vous, en l'occurrence, ce jour fatal de novembre, à quelques jours de votre anniversaire en plus?
Oui, à quelques jours de mes 40 ans. C'est un jour banal pour nous. Je le dis régulièrement dans le livre, qu'on vit sur des périodes banales qui nous plaisent bien. Et donc, on est un dimanche soir assez classique pour nous. Et Camille se couche comme d'habitude. Et en début de nuit, vers 23h, elle pleure, elle essaye de réclamer du Doliprane.
Elle a 7 ans, 7 ans et demi.
7 ans et demi, ouais. Voilà.
Et on est en 2018.
Et on est en 2018, voilà. Et donc, à ce moment-là, nous, on est dans un réflexe assez habituel de parents. Petit mal de tête, Doliprane et au lit. Et puis, au fait, rien ne se passe comme on le pense, puisqu'on n'arrive pas à la réveiller réellement. Et en gros, en un quart d'heure, on réalise qu'elle est inconsciente.
Oui, c'est ça. Il faut pouvoir repérer ce qui est de l'ordre du sommeil et de l'évanouissement.
Donc, à un moment, on a bien compris qu'on ne la réveillerait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on a appelé le SAMU et tout s'enclenche.
Et il est venu rapidement, le SAMU. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais. Et vous habitiez à l'époque en Baie-Bigoudin ?
Nous habitons, oui, ça, Plogastel-Saint-Germain, à un quart d'heure de Quimper.
Bon, un quart d'heure, ça va. Camille, est-ce que vous avez souvenir de comment vous vous sentiez ce soir-là ?
Très bien, comme une journée normale. J'étais un peu fatiguée parce que j'avais supporté mes parents et ma sœur à la course, mais je me sentais bien.
Oui, ah oui, parce que en fait, vous êtes une famille de sportifs, j'ai l'impression quand même, non ?
On s'occupe.
Ouais. Vous-même, Yannick, vous faites de la course.
On court beaucoup et puis on s'occupait beaucoup de basket à l'époque.
C'est ça. Ça a son importance sur laquelle on reviendra. Et alors, donc là, bon, c'est l'hospitalisation. Quand est-ce qu'on vous dit que Camille a fait un accident vasculaire cérébral, un AVC ?
Eh bien, il y a plusieurs étapes, mais quand le SAMU arrive chez nous. On prend conscience de la gravité puisqu'il nous parle tout de suite d'aller à Brest, alors que nous, on s'orientait plutôt vers Quimper, au plus près. Donc là, c'est hélicoptère.
Ouais, mauvais signe.
C'est urgent, ouais, c'est ça. Et ils nous disent méningite ou AVC.
Ah ouais.
Et AVC, on est un peu comme tout le monde, on sait que ça existe, mais on oriente ça vers les adultes, voire les personnes âgées. Et donc là, on découvre que l'AVC pédiatrique, ça existe et que c'est en train de nous tomber dessus. Donc après, on part à Brest et là-bas, ils posent le diagnostic dès les premiers contrôles. Quoi.
Oui, donc c'est parce que c'est rare, mais ce n'est pas si rare apparemment, l'AVC de l'enfant.
Oui, c'est ça. Je n'ai plus le nombre exact de cas, mais je crois que c'est entre 600 et 700 par an en France. Donc ça arrive malgré tout.
Oui, oui. Bon, on reviendra un peu sur l'aspect médical. Mais donc c'est ce diagnostic que poser rapidement, mais ce que ne peuvent pas vous dire les médecins, c'est le degré de gravité, c'est ça. Enfin, comment il se comporte en fait.
Ils le placent très haut, le degré de gravité. Ils mettent tout de suite le pronostic vital en jeu. On les sent quand même assez décontenancés. Il y a un saignement fort dans le cerveau, la pression intracrânienne, j'en parle dans le livre, comme un...
La fameuse pique,
ouais, qui guide un peu toute notre semaine, parce qu'il faut la contrôler, et elle est... elle pète des scores, quoi. Elle est beaucoup, beaucoup trop haute. Et donc, tout ça, ça nous montre que c'est extrêmement grave. Et toute la première nuit, ils nous disent, pour l'instant, c'est leur terme, elle est là et bien là, et on va voir.
Donc, qu'est-ce qu'on vous propose de faire, en fait, dans un premier temps ?
Il y a un temps de latence, et puis dès le lundi après-midi, donc on est une quinzaine d'heures après le saignement, ils disent, là, il faut l'opérer d'urgence, la pression ne baissera pas.
Ah oui, donc c'est ça la solution, entre guillemets, médicale.
La solution d'urgence.
Oui, et c'est quand même une grosse opération.
Oui, parce que déjà, il faut ceux qui connaissent Brest, parce que là, on est sur l'hôpital de Morvan, il faut la transférer à la Cavale Blanche. Le cerveau ne doit pas être mobilisé, donc aucun bruit, aucun mouvement. Donc, il faut imaginer une ambulance qui traverse Brest, avec des médecins tout autour pour que rien ne bouge. Enfin, c'est très particulier comme atmosphère.
Et Camille est en coma, ou c'est coma provoqué ? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement, son état
Elle est inconsciente au moment de l'AVC. Et après, ils la mettent dans une sédation extrêmement profonde pour que le cerveau ne soit jamais, jamais mobilisé.
Ah oui, donc ça veut dire que ça ne sert à rien de lui parler ou de...
Non seulement ça ne sert à rien, mais on en a l'interdiction.
Ah oui, mais vous avez quand même le droit d'être dans les parages.
Oui.
C'est un peu là qu'on se dit, à quel moment vous commencez à écrire, vous, Yannick
Le lendemain.
Et pourquoi
Le lendemain, parce que l'opération s'est bien déroulée, enfin... Au moins, cette étape-là est passée. Il n'y a rien de gagné pour la suite. Nous, on nous dit clairement que quoi que l'on fasse, on ne sera pas utile. Donc, on reste là, forcément, mais on aurait très bien pu être en Polynésie. Ça n'aurait rien changé. Et donc, il y a un temps à tuer. Vraiment, on est et désœuvré et inactif. Donc, ma sœur me met un message. T'as qu'à écrire. Mmh. Alors, je vais voir le médecin. Je lui dis, vous n'avez pas 2-3 feuilles.
Et ça va de soi, en fait, d'être dans les parages de Camille, justement. Enfin, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est important d'être, de dormir à l'hôpital ou
Je pense que chacun a sa réaction, mais nous, elle était évidente.
Oui. Les deux, votre femme, ouais. Rosane et vous, quoi.
On est restés tous les deux.
Et vous aviez possibilité de rester dormir à l'hôpital.
Oui, on avait une chambre des familles. On était au même étage.
Et ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez 2 autres enfants qui sont plus âgés que Camille. Hein, d'un point de vue purement pratique, vous faites appel aux parents, c'est ça ? Enfin, aux grands-parents ? Comment vous faites ?
Tout se met en réseau autour de nous et sans nous. On a la famille, nos frères et sœurs, nos amis, et puis chacun prend sa petite part... de gestion de notre quotidien pour que nous, on ait rien à penser.
Parce qu'en qui vous avez prévenu en premier ?
Mes parents, moi. Ouais. Pour dire, on part à Brest. On n'a pas réveillé les grands. Venez, quoi.
Et parce qu'ils sont dans le coin aussi,
c'est ils habitent Fouesnant.
Et donc, c'est eux qui ont organisé tout le reste ?
Ouais, ça se fait un peu naturellement entre des gens qui se connaissent bien, de toute façon, dans notre réseau familial et amical. Et puis, chacun a un petit peu investi notre maison à sa façon.
Et ça, ça vous permet... Alors, Rosane et vous, Yannick, donc, est-ce que vous avez la même réaction, à votre avis, par rapport aux événements ?
Ouais, au tout début, oui, parce que c'est tellement brutal que on ramasse le choc et puis on essaye de se tenir debout l'un puis l'autre. C'est plutôt dans la continuité qu'il y a pu avoir des divergences... Enfin, c'est pas des divergences, mais c'est des timings de ressentis différents.
Elle écrit pas quand même, Rosane.
Elle n'écrit pas, non.
Ouais. Donc vous êtes mis à écrire pratiquement tout de suite, on va dire. Et aussi, vous expliquez dans le livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement tous ces messages que vous recevez. Et donc, comment vous les recevez déjà ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les recevez ?
Moi, je les prends positivement. Enfin, on les prend positivement. On décide surtout de les accueillir, les messages. On peut comprendre que des familles préfèrent mettre ça à distance et vivre le moment à deux, de manière isolée, et un peu se fermer. Nous, ça a été l'inverse. On s'est laissé porter. Ça nous a beaucoup servi, boosté. Puis ça tombait de partout. Quoi. On avait...
Même des gens dont vous n'aviez pas forcément des nouvelles récentes
Oui, des gens qu'on avait perdu de vue, des relations de relations. Enfin, par ricochet, on avait des messages qui arrivaient dans tous les sens, mais parce que la situation était tellement anormale que ça touchait un peu plus largement que d'autres situations, je pense.
L'information circulait, en fait, aussi.
Très bien, oui.
Finalement. Et vous, Yannick, vous expliquez que vous avez pris le parti de répondre à ces messages et que finalement, enfin, pour vous, c'était un choix positif, hein, c'est ça ? Qu'est-ce que ça vous apportait de répondre ?
Je ne sais pas. Alors, je pense que déjà, ça m'occupait. C'était assez technique, mais on n'avait vraiment rien à faire, hein, sur cette période-là. Donc, ça nous occupait, ouais. Puis, c'était des messages positifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des connexions un peu imperceptibles, mais nous, ça nous... C'était quand même beaucoup d'espoir. On était en train de tout perdre, mais au fait, nous, on avait de l'espoir.
Oui, c'était des encouragements, de toute façon, ouais. J'imagine.
Donc, s'il y a de l'espoir... Mmh. En fait, on n'avait plus que ça comme accroche, nous. Ouais. L'espoir, parce que tout le reste était en train de merder.
Ouais.
Donc, on s'est accroché à l'espoir. Et les messages, ils étaient vraiment hyper positifs.
Parce qu'après l'opération, même si l'opération s'est bien passée, Camille n'a pas tout de suite repris le dessus. Hein, c'est ça, il y a quand même eu un...
Non,
combien de temps de flottement, ouais,
en fait, une semaine.
Ouais. Que dure le livre, en fait, hein, quasiment.
Alors, le livre, il est... presque coupé en deux, puisque la première semaine, elle est en pronostic vital engagé, coma, en gros, tant qu'elle est branchée, tant qu'elle ne respire pas, tant que la pression intracrânienne n'est pas contrôlée. Ben,
tant que vous êtes en apnée, quoi, voilà.
Ah, c'est ça. Et puis après, il y a le réveil, et puis là, c'est un autre combat, quoi. C'est encore différent.
Là. C'est ça. C'est aussi un rapport au handicap, etc., ouais, dont on va reparler, puisque Camille est là. Et juste, quand même, aussi, dites-nous, Yannick, le corps médical, comme on dit, enfin, les soignants, plutôt les femmes, d'ailleurs, enfin, qu'est-ce que vous avez à en dire de ces personnes?
Que du bien. Moi, j'ai réalisé que la prise en charge hospitalière était globale. Ils n'ont pas juste pris un patient, donc Camille... pour le traiter médicalement, ils ont accepté la totalité de notre fonctionnement. Donc notre présence, la façon dont il fallait que nous on vive et qu'on traverse cela, ils nous ont beaucoup aidés. Quand Jeanne et Martin, nos enfants, sont arrivés, je crois que c'était le mardi, c'est la médecin qui est venue les accueillir, leur expliquer. C'est avec elle que mes enfants sont allés dans la chambre où était branchée Camille. Ça dépasse vraiment le côté technique. On est vraiment tombé sur des équipes qui prennent en compte l'humain dans sa globalité.
Et c'est parce que le patient est une enfant, à votre avis? Ou est-ce que vous pensez que c'est valable pour tout type de patient?
Je pense que c'est très relié à leur personnalité, à eux. Eux, ils ont une conception humaine de la médecine. Que du bien à dire de ça. Si tout le monde avait ces conceptions-là dans tous les métiers... On vivrait mieux.
Et vous diriez que c'était une équipe qui s'entendait bien aussi, ce qui n'est pas toujours le cas à l'hôpital, paraît-il.
Ah oui, alors on n'a jamais senti de tension entre eux. Ouais. Ils nous ont laissé, et ni avec nous, ils nous ont laissé toute leur place. Enfin, on avait vraiment l'impression de vivre dans le service.
Donc là, on est à la Cavale toujours ou à l'hôpital Morvan ?
Non, on est à l'hôpital Morvan, ouais. Service de réanimation pédiatrique.
Réanimation pédiatrique. Et vous aussi, vous, Yannick, il y a des coups de gueule dans le livre sur la façon dont les gens, les patients, enfin les usagers se comportent à l'hôpital public.
Oui, c'est agaçant. Et je crois que c'est une période aussi où, toute cette première partie du livre, où je sens, quand je la relis, de l'agacement et de la tension. Mais au fait, on a affaire à un manque d'éducation...
Parce que c'est quoi, les gens jettent leurs ordures n'importe où, c'est ça?
Enfin, on était dans une petite salle des familles. Tous les matins, je préparais gentiment le café. J'arrivais, il n'y avait plus de café, les tasses étaient toutes à laver.
Ah ouais.
C'est très agaçant. Le soir, les journaux sont par terre, les paquets de pizza sont posés. Mais je pense que c'est un problème de société. Mm-hmm. L'hôpital n'y échappe pas.
C'est pas seulement parce que les gens sont sous le choc d'une maladie ou...
Non, pas du tout, non.
Il n'y a pas cette excuse-là parce que
non,
vous, vous faisiez la vaisselle.
C'est ça, oui.
Alors que vous étiez sous un choc.
Je ne m'avais pas touché.
Oui, c'est ça. Donc Camille reprend le dessus, mais ne se réveille pas. Enfin, le réveil, c'est toute une histoire aussi, hein, que vous expliquez, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu, sans tout nous dévoiler?
En fait, on sentait sur la fin de semaine que les médecins commençaient à y croire, et puis ils nous disent, après beaucoup de contrôles, on va amorcer le réveil. Mais elle était tellement sédatée qu'un réveil... en fait, il ne fallait pas que le réveil la transforme en junkie. C'est le mot de la neuropédiatre qui dit si on...
Fait un sevrage, en fait.
On fait un sevrage. Et donc, c'est très progressif. Et donc, son réveil, il dure plus de 2 jours et demi. jusqu'au dimanche midi. Et nous, on sent qu'on est en train d'avancer, mais il y a toujours des petites alertes. On nous pointe une méningite le samedi soir, par exemple. Enfin, voilà, ouais. Un truc comme ça. Et...
Ben, le fait, que moi, à l'hôpital, il y a des maladies nosocomiales aussi. Hein. Voilà.
Et en fait, moi, je commence à ressentir la fatigue.
Ben,
et
c'est
donc,
ça.
Je m'endors.
Ouais.
Et donc, je m'endors. Là, je mets ça dans le livre. Camille se réveille et je m'endors.
Est-ce que vous n'aviez pas trop dormi, en fait,
non,
finalement
très,
ouais.
Très peu.
Hein. Ouais, c'est ça. Un petit mot quand même de ses frères et sœurs, Jeanne et Martin, dont on a parlé rapidement. Mais comment est-ce qu'ils ont été tenus informés de la situation ? Alors, vous disiez les médecins, mais sinon, en fait, est-ce qu'ils étaient assez éloignés ? Est-ce qu'ils venaient quand même ?
Enfin, dans les faits, déjà, ils ont été informés avec vérité de ce qui se passait. C'était notre premier choix. On n'a rien masqué.
Transparence, oui.
Total, oui. Mm. Et donc Jeanne a 15 ans à cette époque-là, Martin doit en avoir 11 ou 12. Et donc ils sont venus par deux fois, trois fois à l'hôpital Morvan. Ils sont vraiment informés en temps réel de ce qui se passe et ils viennent dès qu'ils le peuvent avec la famille.
Et c'est pas trop dur pour de voir leur petite sœur, voilà, avec des tubes partout. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même une vision aussi. Hein, il faut donner, parce que là on est en radio, mais il faut peut-être quand même décrire aussi Camille dans son lit.
Oui, c'est choquant. Enfin, c'est choquant pour tous ceux qui sont passés dans la chambre. Enfin, il n'y a pas eu grand monde, mais les grands-parents, les oncles, les tantes.
Ouais. Wow,
un enfant de 7 ans, câblé de partout.
Et il y a des bips aussi ou pas
Il y a des bips, ah, ouais. Des lumières, des chiffres.
Comme dans les films un peu,
c'est
quoi.
Comme dans les films. Mmh. Oui, c'est choquant.
Oui. Et donc, Jeanne et Martin, ils ont, entre guillemets, ils ont été sans doute choqués, mais pas trop traumatisés par l'expérience, enfin, rétrospectivement.
Oui, marqués comme on l'est tous, mais, mais avançons, quoi.
Et donc, à la moitié, voilà, à moitié du livre, à peu près, donc le réveil. Alors, Camille, je ne sais pas si vous avez vraiment des souvenirs du réveil, peut-être pas.
Au début, pas du tout. Puis au fur et à mesure, j'ai des petits souvenirs comme, par exemple, les couleurs des rideaux de ma chambre ou le dessin de Gaston Lagaffe au mur. Mais franchement, c'est des souvenirs quand même assez flous au départ.
C'était la chambre Gaston Lagaffe,
bah,
apparemment.
Il y avait des dessins au plafond. Moi, je l'appelle un peu comme ça.
Mais vous dites que vous ne vous rappelez pas du tout de la... De quand vous êtes vous étiez malade, enfin la soirée où vous avez fait l'AVC, c'est ça?
Ah non, pas du tout.
Ouais.
Juste de m'être couchée normalement.
Quelles sont quand même vos impressions quand vous vous réveillez et que vous reprenez un peu conscience de qui vous êtes, de où vous êtes, etc.?
Bah franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir eu trop d'émotions au début. Forcément, je avais du mal à comprendre ce que je faisais là. Mais au fur et à mesure, on m'a expliqué et puis j'ai compris... petit à petit.
Et alors ?
Bah, j'ai fini par comprendre que j'avais fait un AVC, que j'avais un handicap sur tout le côté gauche et que je récupérerais pas forcément tout, mais au début, j'étais pas vraiment réveillée totalement. Quoi.
Oui, mais est-ce que quand vous avez compris que vous aviez donc fait quelque chose de très grave, quoi, est-ce que vous étiez en colère, effrayée ou...
Franchement, j'ai pas ressenti tant que cette chose, parce que à 7 ans, j'ai pas l'impression d'avoir eu trop à réfléchir et à j'ai suivi ce qu'on me disait, quoi.
Ah oui, on s'adapte à 7 ans, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais juste si vous pouviez vous décrire, vous êtes d'une nature, quoi, plutôt optimiste, plutôt cool.
Bah, j'ai pas trop de souvenirs comment j'étais avant cet AVC, mais je pense que oui, j'étais... Parfois, j'avais des petits pics de colère parce que je me laissais pas faire ou des trucs comme
ouais,
ça.
Un peu de caractère, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je me laisse pas abattre comme ça.
Yannick, qu'est-ce que vous diriez de la personnalité de Camille ? Avant, après, enfin, ça n'a peut-être pas changé, en fait.
Non, je pense que ça n'a pas changé. Enfin, ça s'est affirmé, mais oui, c'est une enfant épanouie, assez volontaire, quand même.
Ouais.
Peut-être un peu têtue.
Voilà. Comme tant d'autres.
Mais c'est le profil des filles de la famille.
Donc, mais oui, vous dites que les guéguins, on est des battants. Enfin, c'est ça, hein.
Oui, nous, on a tendance à dire que notre nom pourrait suffire à la guérison.
Ah oui.
Ouais, c'est plein d'humilité, tout ça.
Ouais. Non, alors, ce que j'aime bien aussi dans votre livre, je tiens à le préciser, c'est que même si le sujet est quand même grave, et enfin, c'est très émouvant, hein, mais c'est aussi plein d'humour. Enfin, vous avez une distance, une sorte de flegme, je ne sais pas. C'est vrai.
Enfin, je l'utilise. Enfin, je l'utilise pour me détendre. Hein, mais enfin, je me rappelle d'arriver le lundi matin. On est au pire du pire. Hein, et je vois que dans la salle d'attente de la maison des familles, toutes les touches de la télécommande sont complètement rognées. Je me dis que ça doit être l'angoisse des parents. Puis j'envoie la photo à tous mes copains.
Ah ouais.
J'ai regardé ce que ça donne des familles stressées. Ah ouais. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, Camille est à l'agonie. Mais bon, on s'évacue comme on peut.
Mais c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a rien de choquant. C'est... Et vous, Camille, aussi, vous avez de l'humour ?
Pas le même humour, mais c'est pas... Oui, peut-être un peu.
Il y a quand même un petit chapitre médical. C'est-à-dire que cet AVC, il est venu parce qu'il y avait une malformation, c'est ça ? Enfin,
ouais,
qu'est-ce que
ça
c'est ?
Ça s'appelle une malformation artério-veineuse. Je vais faire simple, mais donc, nous, dans le livre, on l'appelle la MAV. Mmh. Ce sont des vaisseaux sanguins qui se mélangent là, en format pelote de laine.
Dans le cerveau ?
Dans le cerveau.
Ouais. Et ça peut arriver n'importe où ou c'est ouais. que dans le cerveau ?
Non, c'est dans le cerveau,
oui. Ah ouais. Et on sait pourquoi ce genre de malformation ?
Non, ça arrive. Et donc, c'est cette malformation qui a lâché et qui a créé un saignement.
Et c'est ça qui est, entre guillemets, rare, mais pas si rare.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et donc, il faut l'opérer. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a lâché une fois qu'il ne peut pas relâcher.
C'est ce qu'on nous dit et c'est surtout ce qu'on vit depuis. Parce que Camille, elle a fait l'AVC en novembre 2018. Il a fallu l'opérer de cette MAV en mars 2019, très vite, pour sécuriser.
Voilà. Ouais.
Je crois que c'est la clôture du livre, quasiment. Et puis, au fait, la MAV, c'est quelque chose de vivant. Et donc, Camille a été réopérée en 2023 ou 24.
23.
Parce que la MAV repousse. Donc on a une vigilance forte.
Ah oui, donc on ne peut jamais vraiment s'en débarrasser, en fait.
Si, quand la croissance s'arrête.
Ah bon ? C'est
pour ça qu'on l'a mis sous cloche.
Ah oui, en effet.
Qu'elle arrête de grandir.
Bah, elle a 14 ans maintenant, donc elle a quand même un peu grandi, malgré tout. Ah oui, d'accord. Donc, mais ça suppose, pour vous, Camille, une surveillance tout le temps. Enfin, c'est, qu'est-ce que
oui,
c'est
on a des rendez-vous avec un neurochirurgien tous les un an et demi. Donc j'ai une IRM, donc une radio... pour le cerveau, et après, à partir de là, on regarde s'il y a quelque chose qui nécessite d'être retiré, et puis, pour l'instant, ça va, mais oui, comme mon père l'a dit, je me suis refait opérer 2023, parce qu'on avait remarqué quelque chose dans le cerveau.
Ah ouais, et c'est quoi, c'est une grosse opération où on vous ouvre le crâne
Oui, ça, du coup, je suis sous anesthésie générale, c'est une opération qui dure plusieurs heures, et c'est quand même une grosse opération, on met à peu près un an à s'en remettre. Enfin, totalement, quoi. Bah, j'ai une cicatrice qui, avec une plaque en métal à l'intérieur de mon cerveau qui permet d'être réouvert pour simplifier l'opération.
Et c'est quel hôpital qui pratique cette opération ?
Du coup, moi, je suis suivie pour ça à l'hôpital de Rennes. Ouais. Et puis, voilà.
Donc, vous êtes dans un processus médical et vous êtes aussi entrée à 7 ans et demi, enfin 8 ans, dans un processus de handicap, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est un handicap. Vous avez une, je sais pas, une RQTH peut-être, une reconnaissance, c'est ça, non ? Comment ça
se
passe ? C'est
une notification de la MDPH, la maison des personnes handicapées.
Et vous, Yannick, déjà, quand on vous dit ça, vous expliquez hein, que voilà, bah, c'est pour un parent, on est toujours dans l'idéal d'avoir un enfant parfait, puis que tout à coup, bah, la vraie vie, c'est pas ça, en fait. Et il faut l'accepter.
C'est vraiment une deuxième phase dans le livre qui est beaucoup plus triste, je trouve. Je trouve que la première, elle est choquante et elle fait peur. Enfin, on découvre, nous, la trouille de perdre un enfant. Et après... Enfin, moi, c'est une période où j'étais très triste parce qu'on est en train d'acter toute cette dégradation du corps. C'est douloureux. Enfin, nous, on a passé, comme tout parent, chaque jour à essayer de l'élever. Mais vraiment, quand on élève un enfant, c'est vraiment au sens propre.
Oui,
élever
élévation.
Chaque jour, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et là, patatras, quoi.
Ouais.
Quand elle se réveille, elle ne sait plus déglutir, elle ne tient plus assise. Bon, forcément, elle ne sait plus marcher. Il y a une main qui est ramassée. Ça,
c'est comme si elle était redevenue bébé un peu, quoi.
Oui, il faut l'accompagner aux toilettes. Enfin, c'est le chantier.
Ouais.
Et on sait, on n'a pas l'issue.
C'est ça. Et on ne vous dit pas ça va prendre 6 mois. Si, on vous dit quand même assez vite que ça va prendre 6 mois, 1 an. C'est ça, on vous donne quand même une idée du temps. De rééducation.
On nous dit 6 mois, ouais. 1 an. On nous dit les 6 premiers mois vont être essentiels et ce que l'on aura récupéré dans 6 mois, ce sera probablement ce qu'on récupérera pour le reste de,
ah oui, c'est ça,
de sa vie. Donc, ouais, en gros, feu, quoi.
Mais on ne vous promet rien en termes de récupération?
Non. Enfin, on nous dit que récupérer une main, c'est quasiment impossible.
Quand même, bon.
Que la jambe, ce sera un peu plus simple.
Ah, bon, oui. Donc, ils sont assez précis, malgré tout.
Oui.
Et vous, Camille, on vous dit la même chose?
Bah oui, c'est ça. Après, du coup, j'ai passé 6 mois en centre de rééducation. Et depuis, je suis toujours suivie en séance par une kiné, une ergo. Et en fait, le but maintenant, ça va plutôt être de stabiliser ce que j'ai acquis plutôt que de chercher à récupérer encore plus.
Et quand on vous dit à vous, à 7 ans et demi, que vous avez donc ce handicap, que vous n'allez pas pouvoir tout récupérer, comment est-ce que vous prenez la chose?
Bah, en fait, ouais, du coup, à 7 ans, je n'ai pas trop le temps de franchement réfléchir. Et du coup, je suis et puis... réfléchis pas trop, et puis voilà.
Vous n'êtes pas du tout abattu, en fait, non, on dirait.
Non, non.
Et vous allez, en plus, à Tillane, alors vous n'allez pas être à la maison, vous n'allez pas être avec vos parents encore.
Oui, oui.
Alors, racontez-nous un peu.
Je passe 6 mois, du coup, en centre de rééducation, en rentrant le week-end, comme un peu une étudiante, au final. Et je trouve quand même un bon entourage dans ce centre. Et ouais, ça me permet quand même de rester... heureuse. Bon, bien sûr, il y a des soirs où franchement c'est pas facile, mais comme j'appelle ma famille quand même tous les soirs, bah ça permet d'être un peu comme à la maison.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu Tillane? C'est où? C'est à côté d'Océanopolis?
Alors ouais, c'est presque sur le port de Brest, et du coup c'est quand même un cadre plutôt apaisant. Et mais le fait que ce soit quand même à 1 heure de la maison, ça facilite pas les choses. Mais j'ai quand même souvent, régulièrement, des visites déjà. Mon père et mon frère viennent tous les mercredis. Puis parfois, j'ai ma famille qui vient. Donc ça permet quand même de rester proche d'eux. Et puis j'ai quand même trouvé des amis. Le personnel soignant est très compréhensif. C'est comme ma petite famille de la semaine.
Ouais, puis vous êtes bien occupée parce que non seulement il y a l'école, mais il y a en plus oui, tous les exercices.
Bah, le rythme des séances de rééducation est hyper intense. Entre ça et l'école, j'ai pas trop le temps de me poser. C'est quand même assez fatigant. Mais c'est quand même une bonne période de ma vie, malgré la dureté un peu. Mais j'en garde quand même un bon souvenir.
Et puis, c'est un peu là que vous avez découvert le handisport aussi, c'est ça ou pas?
Oui, du coup, Camille Yu, une salariée du handisport à Brest, m'a rencontrée quelques jours après mon arrivée à Tillane. Au début, ma mère, elle n'a pas trop accepté le fait qu'on vienne me voir en tant que personne handicapée, ce qui est, je pense, un peu normal pour un parent. Et puis, au final, c'est ce qui m'aura aidée le plus à me reconstruire et à permettre d'équilibrer... entre mes séances de rééducation et ma vie quotidienne.
Et surtout de voir que vous pouvez faire du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport?
Alors aujourd'hui, je fais du surf ainsi que de la natation et je cours presque 2 fois par semaine.
Et donc la main gauche, bon, ce qu'il faut préciser, c'est que vous étiez gauchère, donc
oui,
vous avez dû apprendre à être droitière.
J'ai relatéraliser tous mes mouvements.
Et ça a été?
Ça a été un peu compliqué, mais comme mon père m'a réappris aussi un peu à écrire en même temps que les enseignants de Tillane. J'ai pu vite réécrire de la main droite.
Et scolairement parlant, ça vous a pas trop pénalisé
En fait, j'ai passé du coup la fin de mon année scolaire à Tienne. Donc, franchement, les cours étaient adaptés. Je suivais pas forcément un programme scolaire. C'était surtout permettre de pas trop creuser l'écart avec mon école. Puis au final, vers 3 mois, je pense, j'ai commencé à rentrer. Le jeudi soir, ce qui me permettait d'aller à l'école avec mes amis le vendredi. Donc ça me permettait quand même de garder un rythme par rapport à mon école primaire.
Et donc là, ça va, scolairement parlant, vous n'êtes pas en retard en fait?
Ah non, pas du tout. Ouais.
Bon, comment vous vous sentez maintenant, l'un comme l'autre, de cette expérience? Qu'est-ce que vous en retirez? Parce que malgré tout, c'est une expérience.
C'est du positif. Bon, parfois, quand on a des coups de mou, on pense plutôt au négatif, mais on trouve quand même du positif. Partout.
Et le livre, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, le livre, il m'a permis de comprendre tout ce qui s'était passé, tout le chemin médical, mais aussi autour de mon entourage, avec mon entourage. Mais du coup, il m'a vraiment aidé à comprendre ce qui m'était arrivé. Et, voilà.
Et vous, Yannick?
Bon, l'expérience, elle est... l'expérience de rééducation, notamment depuis... on suit Camille, c'est l'avantage d'avoir une fille qui a décidé de se saisir de sa rééducation, comme ça on n'avait ouais. pas à se lamenter sur notre sort. Hein. Donc, puisqu'elle avance, nous on avance. Donc
vous l'avez peut-être découverte autrement.
Ouais, alors c'est vrai qu'après elle était très jeune, maintenant on a tendance à oublier ce que c'était avant, mais Camille dit ne pas regretter sa vie d'avant, donc nous non plus.
Et vous diriez que vous avez quand même subi un stress post-traumatique après, ou est-ce que le livre était votre thérapie ou...
Non, le livre n'était pas une thérapie, c'était un apaisement d'écriture sur le moment. Vraiment, le mot apaisement, c'était ça. Je pense que c'était un temps d'introspection un peu. Au niveau post-traumatique, non, j'ai surtout ressenti de grosses fatigues. Mais je pense que ça s'est lié au contre-coup. Je la ressens d'ailleurs à chaque fois que Camille a été opérée. Le même coup de fatigue assez long. Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter, le livre ?
Moi, j'ai des retours des lecteurs qui sont... c'est assez touchant parce que beaucoup y trouvent des éléments d'optimisme. Enfin, vous l'avez dit, on est sur une situation... qui à la base est triste, grave. Enfin, on touche sur quelque chose qui est extrêmement négatif. Et a priori, le livre arrive à transmettre un message d'optimisme, d'espoir. J'ai même mis espérance à un moment, je crois. Mm-hmm. Voilà. Donc, si des gens peuvent y trouver des motifs pour avancer, continuer dans des situations similaires ou pas, bah, tant mieux. J'espère que ça peut accompagner quelques personnes.
Ben merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Et on pourra réécouter cette émission, bien sûr, sur le site de Transistor, à savoir transistoche.bzh. Le livre, je redonne le titre, c'est Apnée de Yannick Guéguin et c'est aux éditions Favre. Merci, au revoir.
Au revoir.